Voilà, donc comme François l'a indiqué, on va commencer une série qui va occuper quasiment tout notre été. L'étude donc de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc page, on a dit 776. Alors dans l'une de ses œuvres, Shakespeare fait dire à l'un de ses héros que l'homme est taillé dans la fragilité. Et Shakespeare était un fin connaisseur de la nature humaine. Il a bien raison, l'homme est taillé dans la fragilité. En France, la deuxième dépense de santé est celle qui concerne les traitements contre la dépression et les divers troubles d'ordre psychique. Nous sommes tous bien plus fragiles que nous le pensons. Et les croyants ne font pas exception. Cette fragilité est largement due à l'absence d'ancrage solide dans nos vies. Tout est mouvant. La vérité d'aujourd'hui, nous le savons, ne sera pas celle de demain. Que de questions nous nous sommes posées. Mon mariage durera-t-il ? Qu'en sera-t-il de notre bel amour l'année prochaine ? Que m'a apporté ce diplôme que pourtant j'étais si heureux de décrocher ? Me garantira-t-il véritablement un travail ? Cet ami si loyal le restera-t-il ? Des questions importantes de la vie, et avec parfois des implications dramatiques. Pourtant, il est une question plus essentielle encore, la plus importante que nous ayons à nous poser ici-bas. Et c'est celle que se posaient certains des membres de l'église de Thessalonique. Est-ce qu'on appartient bien à Dieu ? Sommes-nous bien à lui ? Nous nous sommes nous-mêmes sûrement déjà posé cette question, peut-être après avoir lourdement chuté, peut-être après une épreuve bien douloureuse, peut-être après de longues années de lutte stérile contre le même péché, peut-être après des problèmes accumulés dont on ne voit pas l'issue. Dans cette lettre adressée aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, plus fin connaisseur encore que Shakespeare de la nature humaine, l'apôtre Paul veut rassurer les croyants de Thessalonique et nous avec eux. Il veut leur délivrer une ordonnance un peu particulière. Il ne va pas leur prescrire un antidépresseur, il va leur délivrer une ordonnance sur laquelle est écrite la vérité éternelle de l'Évangile. Cet Évangile fiable, cet Évangile qui ne change pas, mais qui délivre et nous met définitivement en sécurité. Alors on va lire aujourd'hui, le chapitre 1. de cette épître aux Thessaloniciens. Donc je lis à partir du verset 1. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés dans la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Ah, merci beaucoup Josias. Alors quelques mots rapidement sur le contexte dans lequel a été écrite cette première lettre aux Thessaloniciens. Alors Thessalonique, bah, vous le voyez, se trouve dans le nord de la Grèce, dans cette région qu'on appelle la Macédoine. Alors c'est une grande ville, c'est la ville importante du nord de la Grèce et c'est un carrefour terrestre et maritime stratégique. Acte 17, les 9 premiers versets, nous relate le passage de Paul et de son équipe, Sylvain et Timothée, dans cette ville. C'est lors de son deuxième voyage missionnaire, le voyage où l'apôtre, pour la première fois, passe en Europe. C'est lors donc de ce deuxième voyage que Paul et son équipe visitent Thessalonique. Alors Paul va prêcher. Il va prêcher quelques semaines dans la synagogue, quelques juifs, mais surtout beaucoup de païens convertis au judaïsme accueillent la parole et reconnaissent Jésus comme le Messie. Et cela ne plaît pas aux juifs restés incrédules qui vont se mettre à persécuter l'équipe missionnaire et la petite église naissante de Thessalonique, qui vont donc provoquer le départ précipité de l'apôtre avec son équipe. Paul n'est pas resté très longtemps du coup à Thessalonique, peut-être 2-3 mois, et on peut comprendre son inquiétude en laissant derrière lui ses jeunes croyants en but donc à l'hostilité des Juifs. Et c'est la raison pour laquelle Paul va renvoyer Timothée vers les Thessaloniciens pour continuer à les enseigner, à les encourager. Et c'est suite au retour de Timothée vers Paul, donc Timothée porteur de nouvelles plutôt encourageantes, que Paul donc va écrire cette première lettre, qu'il va poursuivre son œuvre pastorale en enseignant cette jeune église, mais cette fois-ci par ses écrits. Alors comment va faire l'apôtre pour rassurer, pour affermir les Thessaloniciens? Quelle est l'ordonnance du docteur Paul? Alors Paul va tout d'abord leur rappeler le choix rassurant de Dieu. Il va leur rappeler le choix libérateur de Dieu en leur faveur. Et puis, dans un deuxième temps, il va leur exposer toutes les preuves, il va leur montrer tous les signes de ce choix. Le choix, donc, et les preuves de ce choix. Alors, commençons par le choix rassurant de Dieu en faveur des Thessaloniciens, ce sont les versets 1 à 4. Dès les salutations, verset 1, Paul s'emploie à réaffirmer l'identité profonde des Thessaloniciens. Paul, et on le voit avec Paul, Sylvain et Timothée, s'adresse à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Par ce rappel, Paul insiste sur l'union des Thessaloniciens avec Dieu. Il déclare dès les premiers versets leur appartenance à Dieu. Paul évoque le Dieu trinitaire, Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit sera mentionné par Paul un peu plus loin au verset 5. Dieu, on le voit ici, est présenté comme le Père, avec toutes les implications que ce titre revêt. Il est celui qui a autorité, certes, mais dans le même temps, le Père. Il est celui qui est proche, qui est bienveillant, qui prend soin d'eux. Et les Thessaloniciens ont bien besoin de se souvenir que Dieu est leur Père, alors qu'ils traversent des temps difficiles. Jésus, lui, est présenté comme le Seigneur. L'apôtre ici, en précisant la seigneurie de Jésus, veut rappeler que les Thessaloniciens appartiennent bien à un Dieu tout-puissant qui règne et qui contrôle toutes choses. Jésus est souverain quand bien même le quotidien des Thessaloniciens est compliqué. Cela aussi, l'Église de Thessalonique a besoin de l'entendre. Ils sont bien les sujets du grand roi Jésus-Christ qui règne. Et l'apôtre insistera fortement sur cet aspect de la seigneurie de Jésus à la fin du passage. Et l'apôtre donc, à partir du verset 2, de déclarer toute sa reconnaissance envers Dieu à cause de son œuvre parmi les Thessaloniciens. Il remercie Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est en train d'accomplir et pour ce qu'il fera dans cette église. Au verset 3, Paul évoque déjà les preuves de ce choix rassurant de Dieu envers les Thessaloniciens, sur lesquels nous reviendrons plus tard. Pour l'heure, intéressons-nous au verset 4. Paul commence avec un « nous savons » qui doit rassurer les Thessaloniciens. L'apôtre Paul, envoyé par Jésus lui-même, commence par dire, chargé de toute son autorité, « ce que je vais vous rappeler là dans quelques instants, c'est quelque chose de sûr et certain. Ce n'est pas un « nous pensons que », »,« nous avons de bonnes raisons de penser que », non. L'apôtre et son équipe avec lui sait que ce qu'il va affirmer est certain. Alors ensuite, il les appelle, on le voit, « frères et sœurs ». Nous savons, frères et sœurs. Autrement dit, il rappelle aux Thessaloniciens qu'ils font bien partie de la même famille que lui. De la même famille que lui et Sylvain, Timothée. La famille de Dieu. Qu'ils ont bien en commun, eux et l'apôtre, ce bon Père céleste. Et enfin, Paul déclare que Dieu, on le voit au verset 4, les a choisis. Nous sommes là au cœur du choix bienveillant de Dieu. Alors cette doctrine du choix de l'élection, du choix souverain de Dieu, suscite souvent le débat. Pourtant, que nous le voulions ou pas, elle est présente tout au long de la révélation biblique. Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi Jacob. Dieu s'est choisi des rois, David. Il s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, et pouvait simplement écouter ce qu'il dit concernant ce peuple dans le Deutéronome, au chapitre 7. « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Et dans notre passage, ici ce matin, on lit que Dieu s'est choisi un peuple également dans la ville de Thessalonique. Suite à notre rébellion contre notre Créateur, la seule perspective que nous avions, c'était de tous connaître cette colère à venir dont il est question à la fin du passage. c'est-à-dire la juste condamnation de Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu qui se plaît à faire grâce, qui se plaît à appeler, qui se plaît à sauver. Plutôt que de poser des questions dont la réponse finalement ne se trouve qu'en Dieu, pourquoi moi, pourquoi pas lui, pourquoi elle, sachant d'ailleurs qu'au fond, et jusqu'à la fin, nous ne savons pas si lui ou elle n'ont pas été aussi choisis. Plutôt que de poser des questions dont la réponse donc ne se trouve qu'en Dieu, entrons comme l'apôtre dans la reconnaissance et louons notre Dieu pour son choix totalement immérité en notre faveur. D'autant que ce choix, on le voit, découle de l'amour de Dieu pour nous. Aimer, frères et sœurs, aimer de Dieu. L'apôtre leur rappelle que c'est l'amour de Dieu le moteur profond de son choix en leur faveur. Le choix de Dieu n'est pas fondé sur un quelconque mérite de la part de ces Thessaloniciens, mais sur son amour pour eux. Quelle bonne nouvelle qui devrait susciter toute notre reconnaissance. Si on a du mal avec le choix souverain de Dieu, et d'une certaine manière, je pense qu'on a tous un petit peu du mal, il nous faut débusquer derrière les mensonges de nos cœurs. Et deux mensonges principalement nous mettent mal à l'aise avec ce choix souverain de Dieu. Le premier, c'est penser qu'au fond, Dieu choisit les plus méritants, quand même. S'il m'a choisi, c'est parce que je le méritais quand même un peu, en tout cas davantage que mon voisin. Mensonge à débusquer. Orgueil. Et le deuxième mensonge, c'est de penser que Dieu est injuste, arbitraire, capricieux, il a ses têtes. Rejetons ces mensonges et accueillons la vérité. Dieu est un Dieu bon, juste, souverain. Et la seule attitude qui vaille devant lui, c'est l'humilité et la reconnaissance devant tant de grâce, devant ce choix si rassurant de Dieu en notre faveur. Nous lui appartenons. Il nous a choisis. Mais comment Paul peut-il savoir, comment peut-il affirmer qu'il sait que Dieu, dans son amour, a choisi les Thessaloniciens? Et nous entrons là dans notre deuxième partie, ce sont les preuves, les signes de ce choix. Merci à Josias. Paul n'affirme pas ce choix rassurant de Dieu en faveur des Thessaloniciens seulement pour les rassurer, pensant que ça pourra leur faire plaisir, ça sera bénéfique pour l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Il le fait parce que c'est la vérité, parce qu'il a vu de ses yeux, il a entendu de ses oreilles que les Thessaloniciens avaient bien été choisis par Dieu. On l'a dit, Paul est resté quelques mois chez les Thessaloniciens et il a pu constater de ses yeux, entendre de ses oreilles. Il a pu constater les effets de la parole proclamée au milieu d'eux. Paul a écouté avec attention Timothée lors de son retour, Timothée qui lui a fait son compte-rendu. Il a entendu son coéquipier décrire tous les signes d'une appartenance authentique des Thessaloniciens à Dieu. Alors quels sont ces signes, quelles sont ces preuves qui rendent l'apôtre si sûr de l'appartenance des Thessaloniciens au Seigneur? Alors ces signes qu'on va décrire dans quelques instants, tout comme pour les Thessaloniciens, ces signes nous sont également précieux pour être rassurés nous-mêmes, pour savoir au fond où nous en sommes nous-mêmes, pour savoir si notre appartenance à Dieu est bien authentique. Nous avons donc tout intérêt à être attentifs. Alors nous prendrons ces signes dans l'ordre chronologique. Que s'est-il passé depuis l'arrivée de l'équipe missionnaire à Thessalonique? Alors là, c'est la deuxième partie, les versets 5 à 10. Paul rappelle d'abord que quand l'équipe missionnaire est passée parmi eux, L'Évangile n'a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine conviction. Et il ajoute, « Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. » Que faut-il comprendre ? La prédication des apôtres a-t-elle été accompagnée de signes miraculeux, comme cela a pu se produire à d'autres moments ? C'est peu probable ici. Acte 17, et je vous invite à relire le passage, Acte 17 n'en fait aucune mention. Alors tout d'abord, il est à relever que si l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'a pas été prêché en parole seulement, cet évangile a quand même été annoncé en parole. Cela nous rappelle que contrairement à ce que l'on peut entendre parfois, nous avons à dire l'évangile. Pas seulement à le vivre, espérant ainsi que les gens, en voyant notre bonne conduite, comprendront d'eux-mêmes et recevront l'évangile de façon un peu surnaturelle. Ceci étant, on voit bien qu'annoncer l'évangile, même d'une façon claire et fidèle, ne suffit pas pour que les gens l'accueillent. Que faut-il donc entendre par puissance, pleine conviction ? Alors il semblerait que l'apôtre parle ici de lui-même et parle de ses coéquipiers. Quand il évoque cette puissance, cette autorité, cette conviction, pour paraphraser Paul, il dit que lui et ses compagnons ont eu la certitude, grâce à l'œuvre de l'Esprit en eux, de l'élection des Thessaloniciens. Ils avaient en effet l'assurance dans leur cœur que lorsqu'ils ont prêché l'Évangile, la puissance de Dieu par le Saint-Esprit était à l'œuvre au milieu de ces Thessaloniciens. Paul est certain que Dieu a un peuple à rassembler à Thessalonique et qu'il est en train, là, sous ses yeux, de le faire par la prédication de l'apôtre et par l'œuvre du Saint-Esprit. Cette conviction, l'équipe missionnaire l'a prouvée en se donnant tout entière pour le bien des Thessaloniciens. Par une annonce efficace au milieu d'eux, on verra la semaine prochaine que Paul va rappeler aux Thessaloniciens comment il s'est comporté parmi eux, travaillant sans relâche pour ne pas être une charge pour eux, et dans le même temps leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors l'apôtre est d'autant plus certain que les Thessaloniciens ont été appelés par Dieu qu'ils ont répondu positivement à la proclamation de l'Évangile. C'est la deuxième preuve, le deuxième signe de leur appartenance à Dieu, c'est le verset 6. Ils ont accueilli la parole. Autrement dit, ils ont cru. L'apôtre et ses compagnons ont annoncé l'Évangile avec l'autorité et la conviction que l'Esprit seul peut donner. Les Thessaloniciens ont écouté. Et par l'œuvre, encore une fois, de l'Esprit Saint, ils ont cru. Alors, une application nous concernant la question, on l'a dit, est de savoir si nous appartenons bien à Dieu. On voit que le premier signe qui montre cette appartenance est notre accueil de la parole, notre confiance dans la parole. Croyons-nous la parole ? La Bible, croyons-nous à ce qui est écrit dans la Bible ? Toute la parole et rien que la parole. Croyez-vous que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, mort à la croix pour vos péchés et ressuscité corporellement le troisième jour ? Croyez-vous qu'il règne aujourd'hui et qu'il revient vous délivrer de la juste colère de Dieu à venir ? Ou bien vous croyez ça, mais moins ça. Jésus est quelqu'un de tout à fait remarquable. Il devait d'ailleurs avoir une relation particulièrement privilégiée avec Dieu, mais de là à dire qu'il est Dieu lui-même dans la personne du Fils. Ou alors vous avez des doutes concernant la résurrection. Quant au péché et à cette colère à venir dont il est question, vous trouvez cela décidément trop archaïque. Vous vous étonnez peut-être même du fait que certains en Occident croient encore de telles choses au début de ce 21e siècle. On le voit, l'accueil ou non de la parole est déterminant quant à notre identité, notre appartenance à Dieu. Paul précise que cet accueil s'est fait au milieu des difficultés, mais pourtant dans la joie, et que cela constitue un signe supplémentaire, s'il en était besoin, de l'œuvre de l'Esprit en eux. Qui, en effet, pourrait subir les persécutions et rester dans la joie sans l'aide de l'Esprit Saint dans leur vie? Mais l'apôtre ne s'arrête pas là. Troisième preuve, de l'œuvre authentique de Dieu parmi les Thessaloniciens, ils sont eux-mêmes devenus des modèles. C'est le verset 7. Ils sont devenus des modèles en suivant eux-mêmes le modèle de l'apôtre et le modèle parfait et ultime, celui de Jésus-Christ lui-même. C'est le début du verset 6. Les Thessaloniciens ont accueilli la parole et cet accueil authentique s'est alors traduit par des vies transformées, par des vies en cohérence avec leur foi. Dans la pensée de l'apôtre, l'un ne va pas sans l'autre. Un véritable accueil de la parole se traduit nécessairement par un changement de vie, par une vie conforme ou en tout cas de plus en plus conforme à celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Un accueil purement cérébral, une confession bien orthodoxe, mais qui n'aurait aucune incidence dans ma vie, dans mes choix, n'est pas un accueil authentique de la parole. J'accueille la parole, mais je continue de coucher avec toutes sortes de filles ou de garçons sans problème. J'accueille la parole, mais ma vie reste totalement orientée vers ma réussite professionnelle et matérielle. Quand on dit cela, on s'abuse soi-même, on se trompe soi-même. La réalité, c'est qu'on n'a tout simplement pas accueilli la parole, que notre identité n'est pas ou n'est pas encore en Dieu. Alors en quoi ces Thessaloniciens sont-ils des modèles? Et là, nous revenons au verset 3. Une foi qui œuvre, un amour qui travaille, une espérance en Jésus-Christ qui tient ferme. Alors une foi qui œuvre, tout d'abord, on vient de le dire, la foi véritable est celle qui nous pousse à enfin mettre notre vie en règle pour qu'elle honore Dieu. La véritable confiance en Dieu a des implications bien concrètes. Cette confiance va œuvrer en nous, elle va nous amener à abandonner, à renoncer à tout ce qui nous éloignait de Dieu, pour dans le même temps nous encourager à accepter, à accueillir ce qui lui plaît. Un amour qui travaille ensuite, cet amour s'exerce d'abord au sein de la communauté, même si il n'est pas exclusif. Il est, cet amour, l'une des expressions de la foi authentique. Alors dans ce contexte, il s'agissait sûrement de prendre soin des autres, d'exercer l'hospitalité. Nous avions 7 frères irlandais le week-end dernier. Je remercie ceux qui ont exercé l'amour en les accueillant, en les nourrissant. Il s'agissait peut-être de visiter les uns ou les autres, de passer un coup de téléphone. Le terme ici, le terme « travail » est très fort. Il renvoie à l'idée de peine, de sacrifice. Il s'agit là non pas d'exercer la charité à moindre frais, mais de se mettre en peine, de se donner du mal pour les autres, par amour pour eux. L'exercice de cet amour véritable doit et va nous coûter. Enfin, la fermeté de l'espérance en Christ. Suite au retour donc de son coéquipier Timothée, Paul a dû être soulagé de voir les Thessaloniciens persévérer dans leur espérance. Les Thessaloniciens ne doutent pas, même si, on le verra plus tard, certaines choses ont besoin d'être précisées. Les Thessaloniciens attendent avec foi le retour de leur roi, Jésus-Christ. Ils conservent intacte cette espérance qui leur permet de vivre des vies à la gloire de leur Dieu. Et là encore, une question pour nous. Notre foi œuvre-t-elle ? Est-ce qu'on offre à notre Dieu des vies de plus en plus à sa gloire ? Est-ce que notre amour travaille ? Est-ce qu'on se donne de la peine pour le bien des autres et pas nécessairement les plus proches, nos familles, au-delà ? Est-ce qu'on attend le retour de notre roi ? Est-ce que cette attente est bien présente dans nos vies ? Alors après une annonce de la parole avec puissance et conviction, après un accueil positif de cette parole, après des vies transformées par cette parole, une quatrième preuve, un quatrième signe de l'appartenance authentique des Thessaloniciens à Dieu, la proclamation de l'Évangile par ces Thessaloniciens eux-mêmes. C'est le verset 8. On l'a dit en introduction, la ville de Thessalonique était une ville importante et stratégiquement placée car au carrefour de routes terrestres et maritimes majeures. Les Thessaloniciens ont reçu la parole et ils ont compris qu'ils n'avaient surtout pas à la garder pour eux-mêmes, mais à la partager à tous ceux qui les entouraient. Alors ont-ils envoyé eux-mêmes des équipes missionnaires ? C'est peu probable, car au moment où l'apôtre écrit, l'église de Thessalonique est une toute jeune église. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'ils ont partagé dans leur ville, dans leur contexte immédiat, l'évangile avec ceux qui les entouraient. Et ceux qui ont à leur tour entendu l'évangile, qui ont cru, l'ont propagé plus loin, peut-être en prenant le bateau pour l'Italie, l'Afrique du Nord, ou en prenant ses routes commerciales. De sorte que Paul, on le voit, peut écrire « C'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître ». Application, annoncez-vous l'évangile autour de vous. Alors nous sommes bien d'accord pour dire qu'il faut le faire intelligemment, avec tact, dans le respect des uns et des autres. Mais le faites-vous ? Le faisons-nous au moins de temps en temps ? L'avons-nous déjà fait ne serait-ce qu'une fois, au travail, au club de sport ? Nos collègues savent-ils seulement que nous sommes chrétiens ? Que nous fréquentons une église. Si nous appartenons bien à Dieu, on va témoigner autour de nous. On va dire à ceux qui nous entourent combien notre Dieu est un Dieu bon et grand. Terminons. Dans les deux derniers versets, Paul résume ce qu'il vient de développer. Il résume de façon très solennelle, très grave, l'expérience des Thessaloniciens, leur expérience passée, leur expérience présente et leur expérience à venir. Alors, passé tout d'abord. Ils se sont tournés vers Dieu en abandonnant leurs idoles. C'est l'œuvre de la foi qu'on vient de développer au verset 3. Cette foi authentique qui change radicalement les vies. Expérience présente pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est le travail de leur amour, toujours du verset 3. En servant leurs frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même que l'Église de Thessalonique sert. Et enfin, l'expérience future est pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. C'est la fermeté de leur espérance en Jésus. Nous sommes tous bien fragiles. La vie n'est pas simple. On l'a vu dernièrement en étudiant le livre de l'Ecclésiaste. Et fatalement, à un moment ou à un autre, le doute s'installe Suis-je vraiment chrétien? Est-ce que j'appartiens bien à Dieu? Est-ce qu'il m'aime? Les questions les plus essentielles que nous ayons en effet à nous poser ici-bas. Alors si vous êtes dans ce cas-là, il faut vous arrêter pour méditer ce passage, pour recevoir la parole, accueillir la parole, et puis donc se poser ces questions fondamentales. Alors d'abord, que pense, quand je doute, il est bon de se poser ces questions, que pensent mes amis chrétiens mûrs dans la foi concernant ma foi? M'encourage-t-il comme l'apôtre Paul encourageait les Thessaloniciens en affirmant, en me disant, oui, tu appartiens bien à Dieu. On a besoin des autres pour avancer dans la foi, pour être relevé quand on doute. Ne nous privons pas des relations fraternelles étroites si essentielles. Deuxième question, est-ce que je crois ce que la parole dit? Est-ce que je crois ce qui a été lu ce matin? Troisième question, est-ce que ma vie a changé depuis que j'ai cru? Est-ce qu'elle continue de changer pour être toujours plus conforme à celle de Christ? Alors il n'est pas question d'avoir des vies parfaites, mais de commencer quand même à changer un peu, de commencer à se détourner de nos idoles, de ne plus mettre systématiquement à la première place nos carrières, notre confort matériel, nos vacances, nos loisirs, nos familles, notre santé, pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est souvent un processus long, douloureux, mais qui doit être bien réel. Alors parfois, au début de ce processus, il n'y aura qu'un simple malaise, une simple tension face à notre péché qu'on ne ressentait même pas avant. Mais on est sur la bonne voie. Il ne faut pas s'arrêter là, hein. Mais on est sur la bonne voie. Question encore, est-ce que je témoigne de l'amour de Jésus autour de moi? Ou bien est-ce que finalement je suis assez discret concernant le témoignage? Ça veut peut-être dire des choses. Enfin, est-ce qu'on attend dans l'espérance, avec une certaine impatience, le retour de notre roi Jésus qui nous délivre de la colère à venir? Si tel est le cas, soyons rassurés. Sachons que nous sommes aimés de Dieu, que nous avons été choisis par lui, que nous lui appartenons bien et que nous pouvons, comme l'apôtre Paul au verset 2, dire constamment toute notre reconnaissance à Dieu dans nos prières et ceci pour sa gloire. Nous allons prier. Notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es un Dieu généreux, un Dieu bon, qui, dans ton amour pour nous a choisis. Seigneur, merci pour la présence de chacun ici. Merci parce que nous sommes venus dans ta grâce pour accueillir ta parole. Et Seigneur, merci pour ce signe si encourageant que tu nous adresses ce matin, pour nous rappeler que nous sommes bien à toi. Seigneur, aide-nous à accueillir toujours mieux cette parole, à faire en sorte qu'elle transforme nos vies, pour que nous puissions en effet te servir, toi le seul Dieu vivant et vrai. Seigneur, c'est à la prière que nous t'adressons au nom de notre roi Jésus. Amen.